La Chronique Animaliste, votre rendez-vous mensuel sur la cause animale, proposé par les antennes locales des associations Cétacé, L214, du Parti Animaliste et par le collectif Nantais pour les animaux.
À retrouver tous les premiers mardis du mois à 18h45 sur le 91.2 FM et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique animaliste. Aujourd'hui, c'est le collectif Nantais pour les animaux qui va vous parler de notre rapport à l'animal non humain, et plus particulièrement de spécisme, terme sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Pourquoi préciser non humain ? Vous pensez peut-être qu'à travers ce terme, nous entretenons le clivage entre animaux et humains, mais ce sont pourtant bien nous, les humains, qui nous appliquons à creuser ce fossé en nous auto-érigeant au sommet et en nous arrogeant le droit d'user sans limite de leur corps et de leur vie. En utilisant ce terme, nous souhaitons estomper la frontière si fine qui nous sépare, car nous sommes nous aussi ni plus ni moins que des animaux. Le spécisme est une discrimination basée sur l'appartenance à une espèce. On est spéciste si on privilégie les intérêts des humains aux intérêts des autres animaux de la même manière qu'on est raciste, si on privilégie les intérêts des blancs par rapport à ceux des noirs, ou sexiste si on privilégie les intérêts des hommes par rapport aux intérêts des femmes. Le spécisme, c'est aussi considérer que la souffrance d'un chien ou d'un chat importe plus que la souffrance d'une poule ou d'une vache. Nous faisons preuve de spécisme tous les jours et dans la plupart de nos actions. Lorsque nous mangeons, lorsque nous nous habillons, lorsque nous nous maquillons, quand nous faisons le ménage, ou encore lorsque nous choisissons une sortie familiale. Nous sacrifions en effet des vies pour pouvoir manger de la viande, des œufs, du lait, mais aussi pour tester nos produits cosmétiques et ménagers, pour nous vêtir de cuir, de laine, de fourrure, ainsi que quand nous allons admirer les animaux au zoo ou au cirque. Pourtant, le critère d'espèce n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer la façon dont on peut traiter un individu. On entend souvent que, contrairement aux humains, les animaux seraient moins intelligents, ne seraient pas conscients de leur propre existence, ne seraient pas rationnels. D'une part, ces affirmations sont fausses, car tous les humains ne disposent pas de ces facultés. Par exemple, les nourrissons, les personnes souffrant de déficiences mentales lourdes et les individus atteints de sénilité avancée ne sont pas conscients d'eux-mêmes et ne sont pas rationnels. Pourtant, ils bénéficient bien heureusement des mêmes droits que le reste de la population. D'une part, en quoi le niveau d'intelligence ou de conscience serait-il un argument recevable pour justifier cette différence de traitement ? De même, comment est-il possible de justifier qu'un chien ou un chat soit dorloté, considéré comme un membre de la famille, alors qu'un cochon ou un poisson sera maltraité, enfermé, exploité et tué en toute impunité ? Depuis la seconde moitié du XXe siècle, nous assistons à l'émergence de l'éthologie animale. Cette science s'intéresse aux comportements individuels et sociables et aux mœurs des animaux. Ces études sont menées aussi bien dans leur environnement naturel qu'en captivité et nous apportent de nombreuses informations nouvelles concernant ces derniers. Couplées à la biologie animale, ces études nous permettent aujourd'hui d'affirmer avec certitude que l'immense majorité des animaux sont sentients. La sentience désigne la capacité à éprouver des sensations et émotions diverses et variées, telles que la douleur, le plaisir, la peur, la tristesse, la joie ou encore l'empathie. Les antispécistes estiment qu'ils ont des devoirs uniquement envers les êtres sentients. C'est également pour cette raison que l'argument tant entendu du cri de la carotte est invalide. Les végétaux n'ont en effet ni récepteurs nociceptifs, ni nerfs, ni système nerveux central. Or, en l'état actuel de la science, la position d'un système nerveux est considérée comme une condition sine qua non à la sentience. Certes, les plantes réagissent à des stimuli basiques, comme des agressions, et peuvent avoir des réactions stéréotypées et mécaniques, mais elles ne souffrent pas, et à ce jour, rien ne prouve qu'elles sont sentientes. Quand bien même la sentience des plantes viendrait un jour à être démontrée, le meilleur moyen de les protéger serait alors d'opter pour un régime alimentaire végétalien, puisque les plus grands consommateurs de végétaux sont les animaux d'élevage. En revanche, nous savons que tous les animaux vertébrés comme les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles entre autres, sont sentients. Beaucoup d'animaux invertébrés comme les pieuvres, les calamars, les insectes, les arachnides, les crustacés et même certains mollusques tels que les escargots ou les limaces le sont très probablement aussi. Il n'existe pas de consensus scientifique autour de la sentience chez les mollusques bivalves comme les moules, les huîtres, les palourdes, qui ne possèdent qu'un système nerveux rudimentaire. Cependant, la recherche sur la conscience n'en est qu'à ses balbutiements. Nous ignorons encore le code de la conscience et ne pouvons pour le moment l'analyser qu'au travers du prisme humain. Le principe de précaution doit par conséquent être appliqué, d'autant plus qu'il est très aisé de se passer de la consommation de ces animaux.
À présent, nous allons vous aider à vous rendre compte des facultés incroyables de nos voisins non humains, en illustrant nos propos par quelques résultats d'études comportementales. Avant toute chose, il est important de préciser que nous ne cautionnons pas les études invasives qui causent du tort aux animaux, mais force est de constater que sans la recherche en éthologie cognitive, la sentience chez beaucoup d'entre eux n'aurait pas pu être prouvée. Les animaux aquatiques sont les premières victimes du spécisme, car ce ne sont pas des mammifères et nous n'arrivons pas à nous identifier à eux. Ils ne manifestent pas leurs émotions par des mimiques faciales ou des cris. Pourtant, chaque animal offre des traits de personnalité et reconnaît individuellement ses congénères avec qui il communique. Une étude menée en 2001 a démontré que les poissons arc-en-ciel, entraînés à trouver un trou dans un filet pour s'en échapper, apprennent en 5 essais et réussissent encore l'exercice du premier coup 11 mois plus tard, faisant taire le mythe caricatural de la mémoire de 3 secondes de poisson. L'imitation n'est pas l'apanage des vertébrés. Une étude datée de 1992 a mis en évidence que les pieuvres savent imiter leurs congénères. Au zoo de Munich, une pieuvre a dévissé elle-même un bocal pour y trouver sa nourriture, cette fois en imitant le personnel animalier. On a de même établi cette faculté chez diverses espèces de poissons qui peuvent apprendre à éviter le filet de pêche en s'observant les uns les autres. On découvre également, grâce à des chercheurs de l'université de Padoue en Italie, que certaines espèces de poissons sont capables d'opérations arithmétiques rudimentaires. Ils peuvent compter directement jusqu'à 4 et estimer un plus grand nombre, chose qu'on croyait jusque-là réservée aux humains et à certains grands singes. Ce ne sont là que quelques exemples parmi d'autres. Il existe à ce jour plus de 500 études sur les capacités cognitives des poissons qui révolutionnent l'idée que nous nous en faisons. Les oiseaux sont eux aussi bien souvent déconsidérés. Pourtant, de nombreuses espèces sont dotées d'une intelligence remarquable. Les chercheurs suédois de l'université de Lund ont réalisé une expérience assez simple avec des corbeaux. Ils ont entraîné ces oiseaux à faire tomber un caillou dans le tube d'une machine afin de recevoir une récompense sous forme de nourriture. Les animaux sont ensuite mis pendant quelques minutes dans une cage en compagnie d'une boîte puzzle sans caillou à disposition. Une heure plus tard, les scientifiques présentent aux corbeaux une sélection d'objets divers, dont un caillou. Presque tous les corbeaux choisissent alors de prendre le caillou. Lorsque les chercheurs leur présentent ensuite de nouveau la machine, 86% d'entre eux utilisent alors le caillou pour enclencher le mécanisme. Cette expérience marque déjà un signe important d'intelligence chez les corbeaux. À cela s'ajoute le fait qu'au cours de ce processus scientifique, 78% des oiseaux ont entrepris de troquer des objets avec les chercheurs. Une capsule de bière contre une récompense, par exemple. Un taux qui est considérablement plus élevé que ceux observés dans des expériences similaires avec des singes. Mais le fait le plus étonnant relevé par cette nouvelle étude vient d'un corbeau en particulier. Le docteur en sciences cognitives Khan Kabadayi relève qu'un des oiseaux a compris prématurément le fonctionnement du système caillou-boîte et a ensuite décidé d'apprendre à ses congénères à utiliser ce mécanisme. Encore plus fort, ce corbeau assez futé a réussi à pirater l'expérience en déposant une couche de brindilles dans le tube et en la poussant avec un bâton, de façon à enclencher le mécanisme et à récupérer une récompense. Un comportement des plus intelligents, mais qui a obligé les chercheurs à retirer l'animal de l'expérience avant qu'il n'apprenne cette méthode aux autres corbeaux. Au Royaume-Uni, une équipe de chercheurs en biophysique a montré que les poules avaient la notion du futur. Dans le cadre de leur expérience, les poules devaient donner un coup de bec sur un bouton de couleur vive pour recevoir de la nourriture. Quand une poule n'attendait que quelques secondes avant de donner le coup de bec, elle recevait une petite quantité de nourriture. Cependant, si elle attendait 22 secondes, elle recevait une quantité bien plus importante. Plus de 90% des poules ont su attendre pour recevoir la plus grosse récompense. Au centre de recherche sur le cerveau de Rovereto en Italie, on a découvert que des poussins, âgés de 3 ou 4 jours, étaient capables d'additionner et de soustraire, en différenciant des quantités différentes de petites balles en plastique. Les cochons ne sont pas en reste. En effet, des expériences réalisées par des chercheurs de l'université de Bristol ont montré que les cochons avaient recours à la tromperie. Cette découverte est importante car elle indique que ces animaux ont conscience d'eux-mêmes ainsi que des croyances et des intentions de leurs congénères. Au cours de ces expériences, on a montré à un cochon où de la nourriture était cachée. Un second cochon n'a pas tardé à se rendre compte que le premier était informé et l'a suivi. Le premier cochon s'en est rendu compte et a vite compris qu'il valait mieux pour lui faire semblant d'ignorer où se trouvait la nourriture. Il ne s'y rendait alors que lorsque l'autre cochon s'était éloigné dans une autre direction. Les moutons, quant à eux, savent reconnaître les visages et préfèrent ceux qui sont souriants. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont découvert que les moutons étaient capables de reconnaître les émotions sur le visage de leurs congénères, mais aussi sur le visage des humains. Selon le docteur Kendrick, spécialiste en neurosciences, les moutons sont capables de distinguer le sourire et la colère chez les humains, ainsi que le stress et le calme chez leurs semblables. Il est dès lors possible que leur vie émotionnelle soit bien plus riche que ce que nous imaginons.
Vous savez dorénavant que tout comme nous, les animaux ressentent la douleur, la peur et ont un intérêt à vivre sans être maintenus en captivité, exploités et maltraités. Une autre idée reçue consiste à penser qu'utiliser les animaux non humains pour l'alimentation est acceptable parce qu'il faut bien se nourrir. Or, il est aujourd'hui reconnu que les produits animaux ne sont pas nécessaires aux êtres humains. Encore mieux, comme l'affirme l'Association américaine du diététique, les alimentations végétaliennes bien conçues sont bonnes pour la santé, adéquates sur le plan nutritionnel et peuvent être bénéfiques pour la prévention et le traitement de certaines maladies. Enfin, il n'est pas non plus possible d'évoquer des raisons écologiques. La disparition des espèces s'accélère de telle sorte que certains scientifiques commencent à parler d'une sixième extinction massive, dont l'être humain serait responsable. En cause, la surpêche, la chasse, le braconnage, la destruction des habitats naturels, notamment pour la culture du soja destiné aux animaux d'élevage, mais aussi l'introduction par l'humain d'espèces invasives dans le but de les exploiter. Au vu de nos connaissances en éthologie, environnementale et sanitaire, est-il encore moralement acceptable de faire perdurer ce système de domination injuste et rétrograde ? La population prend aujourd'hui conscience de cette problématique et des avancées juridiques se mettent en place pour favoriser le bien-être des animaux d'élevage. Mais cela n'est pas suffisant, car cela ne remet pas en cause les oppressions que subissent les animaux. Cela nous conforte dans ce processus de domination et continue de légitimer leur exploitation. Il est de notre devoir de repenser notre rapport aux animaux et d'entamer une transformation radicale de la société pour évoluer vers la libération animale. Nous devons apprendre à vivre avec eux et non pas grâce à eux. Nous ne demandons pas l'égalité des droits entre les humains et les autres animaux. Il serait bien évidemment ridicule d'accorder le droit de vote aux poules comme on l'entend souvent. Tout comme il serait absurde d'accorder le droit à l'avortement aux hommes. Ce que les antispécistes réclament, c'est que nous ayons les mêmes droits lorsque nous avons les mêmes intérêts. Par exemple, nous avons tous un intérêt à vivre, à être libres et à ne pas souffrir inutilement. Ce sont ces droits fondamentaux que nous demandons pour les animaux. Nous pouvons tous agir en ce sens. Tout d'abord, en changeant notre mode de consommation et en refusant de participer à cette exploitation animale que l'on sait dorénavant injuste et inutile. Cette prise de position se traduit par l'adoption d'un régime alimentaire végétalien, en boycottant les loisirs mettant en scène les animaux non humains, les produits et les marques ayant recours à l'expérimentation animale ou utilisant des produits d'origine animale dans leur composition, comme pour les cosmétiques ou l'habillement. Pour vous informer et informer votre entourage, n'hésitez pas à consulter des sites internet tels que le site Vegan Pratique ou à lire des ouvrages comme celui de Karine Lou Matignon, Révolution animale, ou encore à visionner les vidéos de la page YouTube Cervelle d'oiseau ou celle de l'association PEA, pour l'égalité animale. Pour finir, si vous avez envie d'être actif sur le terrain, nous vous encourageons vivement à nous rejoindre lors de nos actions de sensibilisation du public, dont vous pouvez consulter le calendrier sur notre site internet à l'adresse nantes-animaux.fr ou via notre page Facebook Collectif Nantais pour les animaux. Nous en profitons d'ailleurs pour vous annoncer qu'un village associatif vegan d'une dizaine d'associations en lien avec la cause animale se tiendra place du commerce le samedi 9 juin prochain. Merci à toutes et tous d'avoir écouté notre chronique et on l'espère à très bientôt.
La chronique animaliste, votre rendez-vous mensuel sur la cause animale, le premier mardi du mois à 18h45 sur le 91.2 FM. À réécouter le troisième samedi du mois à 17h45 et en podcast sur jetfm.asso.fr.